m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Amis du lundi, Hardy, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat avec Boulevard Voltaire, avec L'Incorrect, Valeurs Actuelles et Le Monde Moderne. Notre grand invité du jour est un vieil ami, François Bousquet, avec qui nous avons traversé les années folles de minutes et du choc du mois.
Fast, hein. Et moins fast, hein.
Absolument, fast et moins fast, oui, c'est bien résumé. Alors voilà, là, je disais déjà la semaine dernière à peu près la même chose, puisque nous avons Xavier Aimant. Alors voilà, je n'invite pas que mes copains, mais il se trouve que mes amis sortent parfois des livres et ils sont suffisamment intéressants pour qu'on ait envie de les inviter. Voilà, donc François Bousquet est aussi l'un des seuls journalistes de notre temps dont la plume peut rappeler nos vrais anciens, nos grands anciens, des François Brignot, des Martin Pelletier, parfois un peu Blondin, sans doute parce que bah, François, vous êtes plus souvent plongé dans Balzac que dans Twitter.
Ouais.
Et je sais pas, je tente.
Malheureusement, de plus en plus en Twitter.
Ah, misérable. Ouais. C'est aussi un journaliste de talent qui a mis la plume dans la plaie. En donnant de la visibilité au racisme anti-blanc, qui est un des corollaires du grand remplacement et qui, jusqu'à très récemment, était le racisme invisibilisé. Donc il l'a fait une fois avec le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, qui date de 2025.
Exactement.
Et il revient aujourd'hui avec la suite, qui est un ouvrage en soi, mais qui peut être considéré comme un second volet.
Un diptyque. Hein.
Qui s'appelle donc « Sale blanc », ça a le mérite d'être clair, « Le racisme qu'on ne veut pas voir ». Et avec lui, donc, nous reviendrons sur les témoignages de dizaines de Français victimes silencieuses d'une véritable expropriation de leurs terres, mais aussi victimes donc, de ce racisme que les autorités refusent d'admettre, et encore plus évidemment de prendre en compte. Même si les choses bougent un peu, je pense qu'on pourra avoir quelques petits...
Timidement, mais on en parlera.
Timides espoirs. Ensuite, nous passerons au rendez-vous de la réinformation. Alors, Elon Musk, devait-il se présenter à la convocation de la justice française? Le milliardaire américain donc était convoqué lundi dernier dans le cadre d'une enquête sur les présumées dérives de son réseau social, donc X, ancien Twitter. Et alors, à l'étonnement général, Elon Musk n'est pas venu à Paris. Donc,
il a raté l'avion.
Ouais, exactement.
La fusée, pour le concernant. Oui. Ouais.
Voilà, bah, est-ce qu'il a eu raison ou tort? Et que
il
n'avait
pas de chaussures sans lacets.
Ah peut-être, oui, voilà, pour éviter de se suicider en garde à vue.
Les voitures électriques qu'il attendait à Paris.
Alors, que penser de cette affaire? Ben voilà, on en parlera dans un instant. Les fuites de données. Qui va tout connaître de notre vie? La mienne, la vôtre, voilà. Donc, le 15 avril 2026, les autorités françaises ont détecté une fuite massive de données d'un dispositif donc, qui est l'ANTS, donc ça veut dire l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Autrement dit, c'est un portail, ça s'appelle France Titre aujourd'hui, je crois. Un portail que des millions de personnes utilisent, tous les Français majeurs, je crois, ont à utiliser au moins une ou deux fois dans leur vie pour l'obtention de leurs pièces d'identité, les passeports, les permis de conduire, et puis l'ensemble des démarches liées à des titres
carte grise,
d'identité. Voilà. Alors, a priori, 11,5 millions de comptes pourraient avoir été piratés. Donc là, ça pose une question importante, parce que quand un service aussi sensible est touché, on ne se demande pas seulement quelles données ont fuité, mais comment est-ce que les pirates vont les utiliser ensuite. Jean-Yves.
Oui, une petite précision, l'agence s'appelle Nationale des Titres Sécurisés, mais elle établit les titres sécurisés, qui ne sont pas sécurisés d'ailleurs, puisqu'on les vole, à partir de documents qui ne sont pas tous sécurisés.
D'accord.
Je ferme la parenthèse
vous nous
pour donner l'idée du sérieux des guignols qui nous gouvernent.
On va rouvrir ça dans un instant. Immigration ensuite, est-ce que nous avons enfin trouvé un protocole pour éjecter les clandestins? Ça a été un petit coup de tonnerre dans le ciel bleu européen. L'accord Italie-Albanie sur l'immigration qui datait de 2023 a été validé, ou reconnu en tout cas jeudi dernier par la justice européenne. Donc l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est apparemment la plus haute instance judiciaire européenne, a estimé que le dispositif voulu par Rome et Tirana, qui consiste donc à traiter les demandes d'asile en Albanie plutôt que sur le sol italien était compatible avec le droit européen. Alors pour Amnesty International, c'est une décision dangereuse pour les droits des demandeurs d'asile.
Ah bah sûrement.
Et puis pour tous les gens normaux, bah c'est un tournant juridique extrêmement important, puisque bah, on va peut-être enfin avoir un précédent pour traiter l'immigration de manière plus rationnelle et plus sécurisée pour les autochtones. Ce qui est quand même un petit peu important. Le rapport à l'oncle ensuite. Alors le rapport à l'oncle sera-t-il publié ou enterré ? À l'heure où on parle, c'est encore une question. J'espère qu'on aura du neuf avant la fin de cette émission. Mais voilà, après 5 mois de travail et de polémique, la publication du rapport rédigé donc par le député UDR Charles Alloncle a été soumis ce lundi, donc ce matin, au vote des 30 députés qui étaient membres de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Mais voilà, rien ne garantit que les propositions de Charles Alloncle seront officialisées publiquement. On sait que certaines ont fuité, mais précisément ce sont des fuites, ça n'est pas officiel. Et si les élus votent contre, si les députés votent contre la publication de ce rapport, eh bien, les travaux pourraient être simplement et purement enterrés si jamais le rapport est censuré. Donc, alors, est-ce que c'est possible ? Quel serait l'impact d'une telle décision ? Actuellement, donc il n'y a pas encore de décision, mais on nous dit que le rapport risque grandement d'être censuré entre les abstentionnistes et ceux qui sont contre. En gros, il n'y a que le vote RN qui serait favorable à la publication du rapport et un LR. Par contre, les comptes rendus des auditions et les vidéos pourraient être conservés. Voilà, donc on est dans une espèce de...
Un rapport édulcoré, quoi, qui...
Ouais, en fait, mais, on censure tout ce qui est intéressant. Ou inaccessible.
Ou inaccessible. Voilà, on pourrait en parler...
Mais au moins, il sera archivé.
Oui.
Et voilà. Non pas détruit.
Mais bon. Alors, ben ça, c'est même pas sûr. S'il est censuré, il est détruit.
Ah, carrément.
On en parlera après, mais il y a peut-être une astuce, là, de nos amis démocrates centristes et gauchistes.
Alors, malgré tout, Le Point a publié, il y a 10 ans ou 12 ans, le rapport qui avait
pas
été censuré sur,
oui.
Ah, oui. Sur les syndicats.
Oui, alors là, il se dit que le JDD pourrait avoir l'intention de publier le rapport au mépris des risques judiciaires, puisque si un média le diffuse, il peut être attaqué et sanctionné. Donc, ça peut être grave, voilà. Et enfin, donc, nous parlerons de Boualem Sansal, qui vient d'annoncer qu'il allait quitter la France. Alors, Boualem Sansal, donc, voudrait quitter le pays à cause des attaques qu'il y subit. Alors, les mauvais esprits pourraient se dire que ça fera toujours un arabe de moins en France, mais... Pour une fois qu'on en a un bien.
Je ne l'aurais pas fait. Hein.
Non, mais ouais. Lui, il est bien, donc pour une fois qu'on en a un bien, est-ce qu'il faut le laisser partir ?
Les autres mauvais esprits évoquent le statut de réfugié,
fiscal. Oui.
Ce qu'on peut comprendre, honnêtement.
Absolument. Oui, parce que les deux pays.
Je ne jetterai pas la pierre sur ce point.
Les deux pays choisis sont la Belgique et la Suisse, bizarrement.
L'air est meilleur en Suisse.
Oui, oui c'est ça.
C'est ce que Mme Adjani avait dit.
Et la météo en Belgique.
Mais les affaires meilleures au Luxembourg.
Ça, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il faudra lui signaler.
Ouais, ouais.
Boualem, si vous nous écoutez. Voilà, donc est-ce que c'est bien intelligent ? Manifestement, oui. Et de son côté, est-ce qu'avant de partir, est-ce qu'il fallait accepter l'élection, par exemple, à l'Académie française, se faire éditer par le groupe Bolloré, si c'est pour filer en Suisse ou en Belgique, parce que la gauche l'accuse d'être d'extrême droite ? Parce qu'en gros, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, ce sera un bon sujet, et j'espère que nous aurons des choses à dire là-dessus. Pour parler de tout ça, j'ai le bonheur, la joie d'accueillir les salles blancs de la réinformation avec Charles-Henri Deslois, écrivain qui fait son grand retour
présent
après les élections municipales.
Oui.
Il a retrouvé son fauteuil, tout va bien.
Pour l'instant, tout va bien.
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Xavier Van Leert, journaliste. Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne. Et donc, François Bousquet, qui vient nous parler de Salles blancs, le racisme qu'on ne veut pas voir, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages, vous pouvez envoyer vos témoignages ou vos questions ou vos remarques à François Bousquet et aux autres membres de cette émission en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr ou en téléphonant au 0146 51 00 85 01 46 51 00 85. Alors, François Bousquet, bonjour.
Bonjour Pierre-Alexandre.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous sortez ce livre, donc le volume 2 si on peut dire, Salles blancs, le racisme autorisé, le racisme qu'on ne veut pas voir et que j'ai rebaptisé Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un peu l'idée que vous développez, comment la stratégie du coucou tue nos enfants. Alors c'est un livre, honnêtement comme le premier tome, c'est un livre objectivement violent qui est choquant. qui met objectivement mal à l'aise. Enfin, c'est vraiment pas facile à lire. C'est important de le lire et c'est important de l'avoir, mais c'est pas oui-oui, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement, extrêmement dur. Alors, avant d'en parler plus en détail, eh bien, je vous propose peut-être déjà de parler de vous. C'est ce qu'on fait toujours un peu dans Restons Courtois. On invite les auteurs pour qu'ils nous racontent un peu leur vie, leur œuvre. Alors déjà, qui êtes-vous, François Bousquet? Maintenant qu'on fait connaissance.
Totalement inconnu.
Un journaliste sans biographie.
Alors vous êtes fils de commerçant parisien.
Je suis d'abord poujadiste. Ouais. Mon univers social et culturel, c'est le poujadisme. Hein. C'est Louis-Ferdinand Céline. Hein. C'est Mort à Crédit, en particulier, de Louis-Ferdinand Céline. C'est le monde des faubourgs, le monde de la protestation, le monde du populisme. Hein. Donc, c'est l'univers dans lequel j'ai grandi. Mon père portait une blouse en moleskine noire. Hein. Moi, j'ai une petite veste en moleskine noire. Hein. En hommage à...
Pour cette, compter les comptes à la Nouvelle Librairie.
Voilà, qui ne sont pas fameux, mais c'est le cadre du petit commerce. Et puis, c'est la plainte célinienne, hein, classique et habituelle. Hein. Voilà, mais journaliste. Moi, je me définis, je déteste les journalistes. Hein. Je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Balzac leur a consacré une démolition magistrale, la monographie de la presse parisienne, hein, où il, entre autres, il invente le rianologue. Hein, c'est un portrait de Bernard-Henri Lévy à 150 ans de distance. Hein. Le spécialiste en rien et de n'importe quoi. Mais d'abord un journaliste, d'abord un enquêteur, accessoirement un éditeur, parce que j'ai été dans une autre vie. Et puis nous,
à l'âge d'homme.
À l'âge d'homme, dans l'univers de la littérature. Univers que j'ai un peu trahi en raison de la pression de l'actualité sur nous. Il y a 20 à 30 ans, les questions démographiques étaient là, mais pas avec l'urgence qu'elles se signalent auprès de nous. Moi, il y a 20 à 30 ans, en effet, je lisais Balzac. Hein. Je pensais que ma vie serait consacrée à Balzac. Hein,
Dostoïevski.
Dostoïevski, à commenter, et peut-être à imiter maladroitement. Mais depuis 15-20 ans, non, la mort de Mick Venner a été un accélérateur, un signal pour beaucoup d'entre nous très très important. La politique me somme, me
mais
requiert.
Alors, avant cela, quand même, vous avez eu quel genre d'enfance? Vous avez grandi à Paris, donc?
Ouais, enfance de Paris. À une époque qui est inimaginable pour les jeunes gens de. Les milléniales, enfin les milléniaux, la génération Z, nous on jouait dans la rue. Je veux dire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi je jouais au football toute la journée. Je passais mon enfance à jouer au football.
Voilà. Dans quel arrondissement?
Le
5e?
Dans le 11e. Hein. Moi j'ai pensé que ma vie serait consacrée au football. Puis je me suis réveillé à 18 ans en me disant merde, il faut travailler. Donc j'ai commencé à travailler très tardivement, hein. Mais c'est inconcevable. On pouvait, ouais, les parents nous laissaient tout seuls. Comme disait Jean Raspail dans un bouquin, Jean Raspail disait, la seule chose qu'on nous demandait, c'est quand on arrivait le soir pour le dîner, c'était d'avoir les mains lavées.
C'est ça.
Voilà,
Et nos parents disaient, quand est-ce que tu vas rentrer, alors que maintenant, c'est quand ils sont tous devant leur ordinateur, c'est quand est-ce que tu vas sortir.
Ouais, exact. Nous, on regardait les étoiles, ils regardent leurs écrans. Ouais. Bon, c'est un autre monde. Hein.
Voilà. Okay. Et alors, à l'école?
À l'école, un élève qui s'est réveillé à 18 ans et qui a fait un choix, la littérature, comme je disais. Voilà, j'ai fait une maîtrise de lettres modernes qui a été consacrée, mon mémoire de maîtrise, à Charles Péguy, polémiste. Hein, parce que le plus grand Péguy, c'est la poésie. Mais les pamphlets de Péguy sont phénoménaux. L'argent suite, quantité d'autres. Hein, donc j'ai travaillé sur lui. C'est un DEA à l'époque hein, et je l'ai arrêté pour travailler. Je travaillais sur Darien. Georges Darien, qui a fait un livre génial, anarchiste de gauche et de droite, hein, qui s'appelle Le Voleur, hein, adapté par Louis Malle, absolument génial. Hein. Et Louis, une phrase fétiche du Voleur de Georges Darien, c'est le secret du bonheur, c'est le courage. Hein. C'est une phrase qui me hante depuis 30 ans.
Et vous y avez consacré un livre,
ouais,
au courage.
Ouais, voilà. On n'est jamais aussi heureux, aussi euphorique que lorsqu'on est courageux.
Alors je crois que vous avez un lien aussi avec le protestantisme. Alors je ne sais plus si c'est vos parents ou votre épouse.
Non, c'est mon épouse, c'est votre épouse. C'est son père d'origine sévenole, hein, qui est un univers qui était très beau, qui est en train d'être contaminé par l'évangélisme et les charismatiques. Hein. Les offices dans les Cévennes étaient il y a 20 ans étaient magnifiques, sobres. Moi j'aime beaucoup, je conçois que les gens n'aiment pas ça. Et désormais c'est du happy clacky. Et ça fonctionne, c'est du tonnerre de Dieu. Alors j'y ai pas été depuis longtemps.
C'est le cas de le dire.
C'est dans le Gard, hein, dans un petit village. Hein, moi, église catholique, église protestante. Hein, on sent que les guerres de religion sont quand même vieilles de 4 siècles. Hein. Il y a moitié. Le temple était vide, comme l'église. Et depuis que les évangéliques ont pris le pouvoir en France, en particulier dans le protestantisme, les églises sont, les temples sont pleins. Mais pour s'y livrer à des formes de culte très américanisées, hyper modernes, post-modernes, hein, qui relèvent pour moi d'une sorte d'extrême Occident. Donc on est quasiment dans du post-religieux ou en néo-religieux. Ouais.
D'accord. Et vous êtes quoi, plutôt catholique ou plutôt protestant?
Moi,
les deux,
non, d'éducation catholique, hein, sans la foi, mais tous mes références sont mon univers mental et l'éducation, j'ai été chez les frères des écoles chrétiennes, hein, puis dans ma famille, je suis d'origine de Rouergat, hein, qui était le département, le Rouergue, qui a été le, il y avait plus de déserteurs en 1914, hein, alors qu'aux Cévennes, il n'y avait aucun déserteur. On nous baratine sur la Corse et les Cévennes. Hein. Ce sont des collabos dans l'âme, hein, que j'adore, hein, par ailleurs. Mais les départements...
Charlie Corse.
Le département où il y avait le moins de déserteurs, c'est la Corse et les Cévennes, hein, Ardèche et Gare. Hein. En réalité, on a recréé a posteriori un mythe cévenol de la résistance, même Corse, ce qui est pas vrai. C'était des gardiens de prison, des officiers coloniaux, des sous-officiers. Or, qu'en Aveyron, c'est un département très religieux. Et à la suite de l'expulsion des congrégations, à deux reprises, hein, il y avait beaucoup de congrégations en Aveyron. Eh bien, les curés, les bonnes sœurs sont partis, ce qui fait qu'ils étaient appelés sur les listes mobilisables en 14. Hein, et bah, ils n'étaient pas là, puisqu'ils étaient en Amérique latine, en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord.
D'accord. Voilà. Et alors, donc, si on revient à vous, donc, la littérature, et ensuite, comment vous entrez dans le journalisme alors, parce que
parce qu'il faut vivre.
C'est ce métier.
Parce qu'il faut vivre.
Pierre-Antoine Cousteau disait qu'on y arrive lorsqu'on a raté partout.
On sait combien, avec son acronyme, vous l'aimez beaucoup, Pierre-Antoine Cousteau. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup Pierre-Antoine Cousteau. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un spécialiste de tout et de rien. Je confirme, il y a beaucoup de ratés. Ça postule que je ne suis pas, donc c'est un peu prétentieux. Comment j'y suis arrivé? Parce que quand vous grenouillez dans l'univers de l'écrit, l'édition, de fait, vous aboutissez très rapidement, enfin rapidement, moi tardivement, je commence à écrire à 30 ans.
Ah oui.
Ouais, très tard. Ouais,
même
ouais.
Dans le journalisme.
Oui, dans le journalisme, mon premier papier, c'est vieux. Moi, je pensais éditer des gens. Et puis après,
donc
on écrit.
Vous étiez à l'âge d'homme. Politiquement, alors, parce que vous disiez que vous étiez
l'univers poujadiste. Le Penaud poujadiste. Vraiment le poujadisme.
Depuis toujours, alors.
Voilà, on appartient à sa classe sociale. Hein,
mais vous étiez tout petit quand Poujade était
mais
c'est connu.
Non, mais c'est les parents,
oui,
c'est
je sais
l'univers.
Bien,
c'est
vous.
Alors, il n'y avait plus Poujade, il n'y avait pas encore Le Pen. Hein. Mais j'apprends à lire, moi, j'apprends à lire dans NH. Hein.
National Hebdo, pour les intimes.
Mes parents étaient abonnés à présent, et à La Croix aussi. C'est les canards. C'était une famille pieuse, ouais. Mais présent aussi. Ouais. J'apprends à lire dans ces... Je lis Brignot, Madiran... Mabir, hein, c'est tous ces gens-là que je lis quand. Alors moi, je baigne depuis toujours là-dedans. Hein, j'ai fait aucun effort pour y entrer. Je suis un enfant de
un cette natif.
Voilà, un natif. comme dirait Michel Tribala, un natif au carré. Voilà. Je suis un natif au carré. Voilà.
Alors, on a une auditrice, qui nous dit « Vous serait-il possible de parler moins vite et pas ensemble au micro, sinon c'est passionnant ?» Eh bien, merci, chère madame. Et effectivement, nous allons essayer d'éviter de blésimarder, qui veut dire parler tous en même temps. Les amis, j'en profite, qui êtes dans Zoom. Xavier Van Leerde et Alexis Poulain, n'hésitez pas, comme je suis seul ce soir parce que le camarade Richard n'est pas là, n'hésitez pas à faire ostensiblement signe de la main lorsque vous voulez parler, parce que je risque de ne pas toujours vous voir. Alors donc, la politique, donc le péno-poujadiste natif qui travaille dans l'édition. Alors comment vous arrivez? Votre premier article, c'est où alors?
C'est dans Éléments, auteur que je recite à chaque fois que je passe ici, parce que plus personne ne lit, archéofuturiste au sens littéral du terme, plus grand que la nouvelle de Guillaume Fay dans l'archéofuturisme, qui clôt le bouquin de Guillaume Fay, c'est Jean-Claude Albert Veil qui avait fait une trilogie, Europia, Franchoupia, Sibéria. Mon premier papier, j'en suis fier, on l'a réédité à l'âge d'homme, et plus personne ne lit malheureusement, ainsi va la littérature, voilà. Ouais, on passe souvent du premier au deuxième rayon, du deuxième au troisième.
Qui avait fait des uchronies, donc.
Des uchronies géniales. Ouais. Hitler gagne la guerre. Ensuite, il y a une dénazification de l'Allemagne. Il y a un empire franco-allemand qui se met en place. Et puis après, un grand empire euro-sibérien.
D'accord. Et donc, Éléments. Et d'Éléments, donc, vous passez...
Alors, pour Éléments, la rencontre, c'est avec De Benoît. De Benoît nous soumet à l'âge d'homme un texte qui s'appelle « Dernière année », qui est le premier texte de Benoît assez personnel. Hein, c'est un recueil d'aphorismes. Hein. Et je dois dire, j'ai été ébloui. Je ne le connaissais pas. J'ai été ébloui par ce texte. Et donc, c'est la rencontre avec la Nouvelle Droite se fait à cette occasion-là, fin des années 90. Hein, ouais.
D'accord. Et donc, après, nous, on s'est connus à Minute.
On s'est connus à Minute et au Choc, je pense conjointement. Donc, c'est fin des années 2000, début des années 2010. Hein. Et puis après, il y a eu d'autres aventures que nous ne pouvons pas évoquer.
Mais qu'il faudra un jour évoquer.
À cette antenne. Voilà.
D'accord. Et maintenant, vous dirigez...
Éléments. Voilà. Éléments, qui est le premier canard dans lequel j'ai écrit. Et j'ai pris la suite de Pascal Essérick, devenu Pascal Ménadier, et dont on parle beaucoup ces deux dernières semaines. Voilà. Et en bien, tant mieux.
Ouais. Oui. Voilà. Et alors, comment est-ce que... Parce que effectivement, quand on s'est connus, justement, vous étiez vraiment très littéraire. Je me souviens vraiment de... Vous aviez une passion pour Dostoïevski, pour Balzac.
Toujours, ouais.
Et comment on en arrive à parler du racisme anti-blanc, puisque c'est ce qui vous amène aujourd'hui?
Parce que, on est, comme je le disais, on est rattrapé par une actualité qui s'est emballée, qui s'accélère. On vit sous le régime de l'accélération. Accélération des modes de vie, des déplacements, mais aussi, malheureusement, de l'emballement et de la folie migratoire.
Hein. Parce que la notion, je me souviens, on avait des discussions, la notion de race n'était pas vraiment votre truc. En
non,
fait,
non, c'est... mais elle, dans l'absolu, elle,
elle s'impose
peut dire,
à vous.
Quoi. On peut dire que, pour moi, là, je ne veux pas rentrer dans le débat, comme dit Renaud Camus, je ne suis pas théologien, je ne suis pas métaphysicien, et je ne suis pas biologiste, hein, je ne suis pas généticien. Peut-être certains le sont. C'est pas que je botte en touche, hein, disant cela. Moi, je crois aux représentations sociales. Hein, voilà. C'est m'intéressant à la politique. La politique, c'est d'abord des représentations sociales. Hein. Et dans les représentations, la couleur de la peau est un déterminant de plus en plus central, surtout dans des univers multiculturels, hein, puisqu'on est renvoyé, ma formule est que dans les univers multiculturels, hein, le dénominateur commun, c'est l'agrégat tribal, hein, et c'est aussi un déterminateur. Hein. Donc dans les représentations, la catégorie blanc, perçue comme blanc, est devenue centrale. J'en fais pas une lecture stricto sensu biologique, hein, puisque cette catégorie est assez large, hein, sale blanc. J'y associe ce qui manquait, me semble-t-il, dans mon premier volet, c'est la figure des Asiatiques.
Hein. Oui.
Aux États-Unis, on définit les Asiatiques comme des blancs adjacents. Il y a une catégorie de blancs adjacents. Voilà. Et de fait... Hein, ils sont présumés être porteurs, hein, ouais, des mêmes privilèges que les Blancs, dans l'esprit des indigénistes, des racisés, des woke. Hein.
Les Juifs et également.
Les Juifs également. C'est la thèse d'un auteur génial, hein, qui a 95 ans, que nous avions traduit à l'âge d'homme. Hein, l'Amérique des ethnies, c'est Thomas Sowell, hein, qui montre que Sowell, c'est... Moi, je recommande à nos auditeurs, il y a quasiment peu de livres à ma connaissance, il y en avait un à l'âge d'homme, l'Amérique des ethnies, qui est vieux de 30 à 40 ans. Il a sorti un livre il y a une dizaine d'années, je le redis, il a 95 ans, c'est un noir économiste, mais en gros, fondamentalement, c'est plus qu'un économiste, c'est un moraliste. Je veux dire, c'est un grand moraliste, un grand historien, un grand sociologue, un grand philosophe. Hein. C'est son bouquin, c'est Black Redneck, hein. Il renverse les perspectives, et White Liberal, hein, où il montre que... les Asiatiques et les Juifs, hein, sont victimes des mêmes formes de discrimination que les populations WASP. Hein. Donc c'est, j'essaye d'élargir de... C'est un sujet brûlant. Cette question-là, elle est brûlante. Hein. Mais néanmoins, me semble-t-il, l'objection de Camus, qui est une objection de littéraire, ce que je suis, c'est que n'étant ni généticien, ni théologien... Renaud Camus, n'étant ni généticien, ni théologien, moi je m'en tiens aux Blancs comme catégorie sociale. Voilà.
D'accord.
Et... Mais après, je suis tout à fait disposé à en débattre. Ouais. Voilà.
Je ne sais pas si Jean-Yves, comment vous considérez les Blancs, comme une catégorie sociale ou comme une catégorie ethnique?
Je pense qu'il y a les deux, si je puis dire. Ce à quoi fait allusion François Bousquet, c'est la visibilité.
Oui. C'est peut-être aussi société... le désignement par un tiers, ça, la désignation par un tiers. C'est-à-dire que comment les gens vous voient.
Je vous attends, c'est que là, vous retombez dans la catégorie sociale. Hein. À s'aventurer sur le terrain biologique, moi, je dis le fait, j'ai fait son éloge dans Éléments, Jean-Yves l'a fait également à Polémia et, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux, puisque je vous ai lu. C'est un autre débat. Moi, si je m'en tiens à ce que je dis sur les races, mais Jean-Yves, vous allez me dire si je me trompe, hein, c'est qu'aujourd'hui, on parle de spectre de couleurs, hein, plus que, me semble-t-il. Hein, mais je connais pas cet univers. Donc,
Moi, je pense qu'en fait, il y a une grande pudibonderie, notamment dans les milieux scientifiques, qui parlent de population parce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot race. Mais il y a évidemment une hérédité génétique qui est extrêmement forte.
On fait pas un pli, ouais.
Et chez les Européens, il y a une grande homogénéité de l'hérédité génétique. Voilà. Ouais, je crois. Et donc, je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas, qu'on doit aborder indépendamment de la pudibonderie actuelle. Et qu'on abordera, à mon avis, de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure... qu'on est dans une société de plus en plus disloquée, culturellement de plus disloquée, qu'est-ce qui réapparaît? C'est les fondamentaux biologiques, c'est la race et le sexe.
Ouais. Qu'on nous impose, de toute manière.
De toute façon, ce sont les deux choses qui sont visibles. Hein. Étant des animaux sociaux, c'est les deux choses qu'on voit, c'est les deux choses qui sont niées aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, on parle de genre au lieu de sexe, hein, alors que c'est la première chose qu'on voit. Est-ce que c'est une femme ou un homme? L'âge,
absolument.
Et ensuite, la couleur de peau. C'est la thèse que je reprends dans le bouquin, c'est que quoi qu'on pense, hein, de l'existence ou de l'existence des races, machin, vous avez raison, il y a de la pudibonderie et de la prudence. Hein. C'est pas grave, hein. elle commande des comportements. Donc, parlons-en. Elle oui. commande des comportements.
Et c'est surtout que d'autres, de toute manière, nous l'imposent.
Oui, oui,
honnêtement,
oui.
Enfin, moi, mon avis, c'est que c'est quand même tragique et dommage d'en arriver à de si petits dénominateurs communs. On ne l'a pas cherché, en fait. C'est ouais. triste, mais d'être réduit uniquement à sa notion raciale, à son identité de race, c'est triste, au fond. D'ailleurs, on est quand même beaucoup plus, en
beaucoup,
théorie.
On est beaucoup plus riche que ce que la biologie dit de nous.
Oui.
Pour autant, la biologie
dit de
nous certaines choses
qu'il
ne faut pas occulter. Voilà.
Et la biologie détermine en partie le reste.
Oui.
Pas complètement, mais il n'y a pas une déconnexion complète entre le culturel et le biologique.
Charles-Henri Deslois.
Oui, alors il y a quelques années, il y a un président de la République qui voulait interdire, bannir le mot « race ».
Oui.
Et on n'a jamais autant parlé de « raciser ». Alors, on est dans une époque où les races n'existent pas, bien sûr, mais elles sont toutes égales. Les races n'existent pas, mais il faut nous métisser. Les races n'existent pas, mais il faut faire de la promotion, comment on dit,
c'est discrimination positive.
La discrimination positive. Ouais. Enfin, donc, on est dans une époque complètement contradictoire.
Oui, non, puis l'immigration n'a jamais été forte.
Et mensongère. Hein.
Alors, maintenant, moi, c'est pas par pudibonderie que je dirais pas que les races existent ou pas, parce que... J'allais dire, ça, c'est des questions qui devraient revenir aux biologistes, aux anthropologues, etc.
Mais les races, ça existe en médecine,
oui,
déjà.
Déjà, voilà. Non, mais quand on parle avec des médecins, ils vous disent qu'effectivement, vous avez des...
Michel Onfray l'avait dit une fois.
Mais peu importe, moi, maintenant, pour éviter le mot race, on parle d'ethnie. Et c'est là où je m'y retrouve, parce que l'ethnie est beaucoup plus profonde dans ce qu'elle représente. Une race n'est jamais qu'un état de fait dont on ne peut rien, on est ce qu'on est, NIT. Alors qu'une ethnie, c'est une culture. Je me sens plus proche, d'un Congolais qui a été élevé dans le 16e, au lycée à Saint-Jean-de-Neuilly.
Enfin, c'est votre côté snob.
Voilà, c'est mon côté snob.
J'avoue que je ne partage pas votre avis.
Mais non, mais culturellement, ce qui fait...
Moi, je me sens plus proche d'un punk à chien
pareil.
Mais...
Attends. Enfin...
Je vous parle d'ethnie. Sur l'éducation, moi, je considère que quelqu'un qui jette des poubelles du haut du deuxième étage ou qui parle très fort dans le train... pour moi, c'est ça qui me dérange.
Ouais.
C'est la façon dont
c'est
ils ont
des
été
Bretons.
Éduqués.
Enfin,
alors, justement, c'est là où je viens. C'est une question ethnique. Je veux dire, si on vous apprend, si c'est naturel de parler très fort, de se comporter, les gens qui, encore une fois... jette tout par terre, considère que les parties communes leur appartiennent, qu'il n'y ait pas de règles autres que celles qui se donnent à eux-mêmes, ma foi, je suis très éloigné de ça, mais je vous ferai remarquer qu'il y a des bons petits Gaulois qui se comportent comme ça.
J'en vois pas beaucoup, moi. Mais je ne fréquente pas les mêmes quartiers que vous. François Bousquet.
Alors après, ce que je veux dire, c'est que si c'est pour parler d'histoire de race, je veux bien, mais à ce moment-là, il faudra me dire si, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est né d'une mère blonde et d'un père noir, parce que maintenant, c'est la grande mode dans les publicités, il n'y a plus que des hommes noirs qui épousent des blondes, vous avez remarqué. On a que ça dans les publicités. D'ailleurs, au détriment de ces pauvres femmes noires qui disent à tous leurs hommes noirs, vous préférez les blondes, nous, qu'est-ce qu'on devient? À ce moment-là, il est quoi? Il est métis. Bon, ça ne change rien. Il est de quelle race S'il est élevé en Afrique et qu'il est arrivé en France et qu'on l'a appris à aller les coutumes françaises, il restera tel qu'un Africain se comporte en Afrique.
Simplement, pour revenir, je pense qu'on se défausse en bottant en touche. Évidemment, l'ethnie est beaucoup plus complexe. Simplement, dans les univers multiculturels, on est renvoyé aux couleurs primaires.
Oui,
les couleurs primaires, trois en peinture. Hein. J'ose pas convoquer Gobineau, mais les couleurs primaires sont... j'y peux rien. Voilà. Les couleurs primaires, c'est leur représentation. C'est ce qu'on voit. Voilà. Et vous avez pointé, il y a une ruse de l'histoire. C'est le paradoxe. Hein. Il y a une ironie de l'histoire, comme disait Hegel. C'est que vous évoquiez François Hollande, qui a voulu retirer à l'unanimité des députés. Ça n'a pas été fait. Le mot race de la Constitution. Mais moi, je remonte à Obama. Obama, en 2008, porte la promesse d'une société post-raciale. C'est la promesse d'Obama en 2008. C'est ça qui porte. Hein. Société post-raciale, livrée à l'hybridation, livrée aux Caraïbes, enfin au métissage. Hein. Eh ben non.
La
non,
créolisation.
Non, eh ben non, la ruse de l'histoire. Hein. C'est que ce fantasme-là, qui était porté par l'antiracisme, qui est une énorme entreprise de déréalisation du réel. C'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune. Ben si, il y en a. Bref, c'est un retour massif, violent du refoulé. Et il sera d'autant plus fort, ce retour massif, violent du refoulé, et d'autant plus élémentaire. Hein. C'est pour ça que je parle de couleur primaire. Hein. D'autant plus élémentaire que dans les univers multiculturels, la première chose qu'on voit, c'est ça. C'est du blanc, du noir, du jaune. Hein. Quel que soit ce qu'on met derrière, le blanc, le noir, le jaune, c'est ce qu'on voit. Chez les métis, hein, pour le travailler et l'aborder dans le sale blanc, tout dépend des univers culturels et sociaux dans lesquels vous évoluez. Si vous évoluez dans des univers plutôt blancs, bah, le métis, s'il est franco-africain, est plutôt victime de racisme de la part des blancs. Et moi, dans les univers que j'étudie, c'est l'inverse. Hein. C'est que le métis s'est renvoyé à son appartenance française. Hein. Et fait l'objet de colibés, d'insultes raciales, anti-blanches. Hein. C'est pour ça qu'il faut élargir parfois la catégorie à d'autres dimensions que la biologie. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais à la fin des fins, vous n'aurez que les couleurs primaires. Hein. Mais comme vous n'aurez que deux sexes.
De moi, de nier l'existence des races. Ce que je veux dire par là, c'est que on juge sur l'apparence, effectivement. Et comme vous dites si bien, on voit ce qu'on voit. Et c'est,
oui, oui.
C'est Xavier
Vanier. C'est ce qui compte, oui, on est d'accord.
On ne vous entend pas, Xavier.
Sur ce débat sur ethnie ou race, enfin, ce que je trouve très frappant, c'est que. Aujourd'hui, en quelque sorte, toutes les races en France ont le droit d'être des ethnies, c'est-à-dire d'être porteuses d'une culture spécifique, de mœurs spécifiques, d'une histoire, d'une civilisation, d'une manière d'être au monde qu'on doit célébrer. La seule ethnie, la seule race qui n'a pas le droit d'être une ethnie et d'être porteuse d'une spécificité, ce sont les autochtones. Moi, j'en veux pour preuve, je trouve ça assez fascinant, j'ai des enfants qui sont à l'école aujourd'hui, et les enfants, Dieu sait s'ils sont confrontés à cet univers où la race revient en force, eh bien, la première chose que leur demandent de jeunes Algériens ou Africains présents dans leur école, c'est de dire « oui, toi, tu n'as pas d'origine ». Ils ne demandent pas de dire « toi, tu n'as pas d'origine ». Les seuls qui ont une origine, et qui donc ont une histoire, une lignée, et qui peuvent s'inscrire, ce sont donc les représentants de halogènes. Et en fait, en réalité, on est dépouillés. C'est-à-dire, tous les autres sont des couleurs, et nous ne sommes plus qu'une page blanche qui est censée s'effacer. Ça me semble être, en fait, la principale manifestation de racisme, c'est de nous dépouiller d'identité. C'est-à-dire que notre ethnie est résumée à quelque chose qui devrait... se résumer soit éventuellement à des valeurs, hein, les valeurs européennes, la démocratie,
la République,
à l'injonction d'accueil en réalité, tandis que d'autres sont porteurs justement d'une véritable ethnie, c'est-à-dire un pacte complet avec une vision du monde.
D'ailleurs, ils s'auto-définissent comme racisés, comme si nous ne l'étions pas. C'est quand même intéressant. Hein.
Ils sont racisés dans leur perspective de façon indirecte. Hein. Le racisme, ça veut dire racisé par nous. Ça veut dire que nous les renvoyons, nous, à leur appartenance ethnique, raciale, continentale, à l'Afrique. Hein. Alors que c'est eux-mêmes. Hein. C'est eux-mêmes qui ont introduit le référent tribal, ethnique et racial. C'est eux qui l'ont réintroduit massivement. Et comme le disait Xavier, eux, chez eux, c'est légitime. Alors que chez nous, ça ne l'est pas. Chez nous, on fait l'objet, dès lors qu'on recourt... Hein, à l'idée que nous sommes plutôt un peuple de race blanche, de culture chrétienne, gréco-chrétienne, etc., on est victime d'inversion accusatoire. Donc on est présumé être, on est catégorisé comme étant d'extrême droite. Hein. C'est ce qui, moi, je m'en moque, hein, où je vais avec. Hein, mais c'est ce qui m'arrive depuis 2 ans, depuis que je porte ce bouquin, ces deux volets. On me renvoie en permanence, au fait, mais non, mais vous êtes un raciste, monsieur Bousquet.
Vous soulevez un problème.
Non, alors ça nous a interdit. La terre entière, en effet, comme le dit Xavier, peut porter, peut être. L'ONU a même, en 2007 ou 2008, hein, voté une déclaration de défense des droits des peuples autochtones. Hein. Donc des peuples indigènes, hein, je veux dire,
c'est-à-dire nous.
C'est-à-dire nous, oui, c'est-à-dire nous. Et ça s'applique à la terre entière, sauf à nous. Mais ça s'explique aussi parce que on est dominé par le logiciel des droits de l'homme, l'universalisme des droits de l'homme. Vous parlez de la République.
La culpabilité coloniale.
La République, ça n'est pas un territoire. Hein, je veux dire, territoire, c'est pas le bon terme. Hein, c'est un terme administratif. C'est pas une terre.
C'est pas une identité.
C'est une idée. C'est une idée. Je veux dire, l'Europe est une idée. La République est une idée,
outil gouvernemental, c'est-à-dire c'est un outil législatif et d'exécutif. C'est rien de plus, une République.
Alors, il faut aller au-delà de ça, je pense. C'est l'outil de l'universalisation du peuple français. est désormais de l'universalisation du peuple européen. Puisque ça n'est plus un territoire, l'Europe. Hein. L'Europe est une idée qui doit s'ouvrir.
Est européen qui veut être européen. Voilà.
Alexis Poulain.
Oui, justement, bah, c'est assez intéressant cette thématique des valeurs, des idées, plutôt que partir sur du concret, parce que ça permet cette idéologie de la déconstruction, hein, de dire qu'effectivement, on n'a pas le voix au chapitre en tant que blanc, avec plusieurs générations qui ont vécu sur un territoire, avec en plus un tabou, et puis, par-dessus tout, l'importation d'un modèle communautariste, anglo-saxon, qui n'est pas forcément adapté à la société européenne. Est-ce qu'il y a un modèle qui fonctionne quelque part dans la façon dont les sociétés s'organisent, ou est-ce que partout il y a du ressentiment, il y a du racisme largement partagé, ou est-ce qu'il y a des sociétés qui finalement ont réussi à trouver une solution ?
François Bousquet.
Merci pour la question. Si on s'en tient aux deux grands modèles européens qui sont portés par la Grande-Bretagne, hein, donc modèle plutôt communautariste, hein, avec la juxtaposition de communautés, avec des droits parallèles, hein, la charia, etc., et le droit français, l'histoire française plutôt, sur l'assimilation, puis après l'intégration, les deux pays ont échoué pareillement, dans les mêmes ordres de grandeur. Hein. Peut-être que l'Angleterre, depuis 10 ans, est plus affectée par le communautarisme que nous le sommes, et encore que ça s'emballe en France aussi, c'est que les deux modèles échouent, parce que les deux ne fonctionnent pas. Donc moi je suis, en réalité c'est les ordres de grandeur, on nous demande d'assimiler non pas des individus, ce qui est concevable, hein, je veux dire on peut assimiler des individus. La France, il y a une immigration en France, hein, mais c'était une légion étrangère. Hein. On immigrait, on importait des cardinaux italiens, des peintres italiens. C'était une immigration qui était très choisie,
Léonard de Vinci.
Oui, mais c'est ce qu'on nous faisions. Je veux dire, et aujourd'hui on pense qu'on peut intégrer des peuples. Hein. Ça ne fonctionne ni en Angleterre, ça crée un peuple dans le peuple, hein, ni en France. Hein. Donc les deux modèles d'assimilation, d'intégration échouent, quoi.
Je ne vois pas
de solution.
Il n'y a pas d'autre modèle que ces deux modèles-là.
Est-ce qu'il y a un autre modèle que ce modèle-là ? Nous demande Alexis Poulain.
Non, il y a un seul modèle, c'est l'assèchement des flux migratoires et ensuite la remigration portée par Jean-Yves Le Gallou. Je veux dire, nous, l'éducation chrétienne, hein, je veux dire, on est placé sous le symbole de la tour de Babel. Hein. Je veux dire, la tour de Babel devrait évoquer quelque chose pour nous. La tentative de créer par-dessus les peuples et par-dessus les langues, là, une unité du genre humain a échoué, s'est effondrée sur elle-même. Hein. Les ordres de grande, on est vraiment dans les grands nombres. Moi, je vois pas comment on peut gérer ces grands nombres sans une réduction massive des flux migratoires. Pour moi, je vois pas d'autre.
Alors là, on parle des grandes solutions, effectivement. Là, si vous voulez, on revient à votre livre, donc Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir, aux éditions de la Nouvelle Librairie, pour parler peut-être justement du corollaire de cet affrontement ou de ce grand remplacement en cours que même l'extrême gauche donc appelle de ses voeux désormais, hein, la Nouvelle France. Comment est-ce que vous avez bâti ces deux livres ? C'est-à-dire comment vous est venue l'idée et ensuite quelle méthode avez-vous mise en œuvre ?
Alors l'idée elle m'est venue du contact des jeunes militants. Des employés de la Nouvelle Librairie, des alternants. Nous avons le privilège, moi, de 68, hein, d'avoir été épargné par le regroupement familial. Hein. J'ai passé ma scolarité à l'abri du grand remplacement, sans quasiment Paris 11e, hein, dans une école chrétienne, mais qui avait une vocation à l'époque assumée d'intégrer également les catégories populaires, parce que les plus riches payaient pour les plus pauvres. C'était le modèle des écoles chrétiennes, hein, autrefois. Donc c'est les gens qui sont nés et qui ont été éduqués après 76, 77, 78, hein, après le choix du couple Giscard-Chirac hein, en 76 qui généralise le regroupement familial, en 77 qui est retoqué par le couple Giscard-Barre et en 78, je parle devant Jean-Yves, hein, que le Conseil d'État a imposé à la France. On vit depuis sous le régime de la dictature des juges. Hein, Donc moi, c'est ces gens-là que j'ai rencontrés, que ma génération ne veut pas voir. Moi, j'ai plus de 50 ans, ma génération ne veut pas le voir. Je pense que le problème est c'est dans un halo lointain.
C'est vieux concept du racisme invisibilisé.
Oui,
c'est-à-dire que le racisme anti-blanc n'est pas reconnu. En tout cas, je me souviens déjà dans les années 2000, où on faisait des enquêtes parfois. Moi, je m'amusais à appeler la LICRA pour leur parler de racisme anti-blanc. Ils m'expliquaient que ça n'existait pas. Ouais, c'était dans ma tête, quoi. Et maintenant, c'est
parce qu'on peut pas en faire l'aveu. Alors, comment ça m'est venu ? Par les gens qui ont 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans aujourd'hui, et qui sont nés dans des univers où ils étaient démographiquement minoritaire, c'est-à-dire la jointure des quartiers et de la France des pavillons, plutôt donc des jeunes, plutôt des catégories populaires. J'ai été sidéré par l'abondance des témoignages, la facilité avec laquelle j'ai pu les obtenir.
Alors ça, c'était une question. Oui. Comment ça fait?
Alors évidemment, j'ai été largement aidé par des prescripteurs d'opinion qui ont relayé mes appels à témoins, c'est-à-dire Damien Rieux, des gros influenceurs, de Damien Souche, Rieux, ouais. Pierre Sautarel, l'œuvre de Souche. Hein, et dans le deuxième volume, j'avais négligé la dimension féminine. Il me semble que le sort réservé par les extra-européens aux femmes européennes est beaucoup plus difficile que le sort des garçons européens face à une immigration extra-européenne. Némésis, Alice Cordier, Mathilda, ça, les appels à témoins relayés par Alice Cordier sont impressionnants parce qu'il y a un maillage du territoire opéré par son association qui est remarquable. Et puis après, vous regardez les forums, vous regardez les forums de discussion, Reddit, jeuxvideo.com, enfin bref, hein, ce qui était les outils d'expression et de décompression de la jeunesse, et vous êtes sidéré par le lexique anti-blanc, par l'avalanche et le flux de témoignages. Hein. Même beaucoup d'extra-européens disent qu'ils ont, dans ces témoignages-là qu'on trouve sur le web, hein, Reddit, jeuxvideo.com, alors je ne sais pas où les vingtenaires vont désormais, c'est sur TikTok, je n'ai pas encore accès à ce type d'outils. Vous vous rendez compte que là, les extra-européens disent qu'ils ont beaucoup plus souvent vu du racisme anti-blanc que du racisme contre les extra-européens. Ça s'est généralisé, banalisé, d'autant plus banalisé que ça n'est pas reconnu. Donc tout ce qui n'est pas reconnu prospère souterrainement, avec la complicité, d'où l'idée de stratégie du coucou, avec la complicité du discours officiel, des encadrants, des enseignants, bref, de l'institution.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est cette stratégie du coucou que vous décrivez?
Alors cette stratégie du coucou peut heurter, je ne voudrais pas qu'elle heurte, hein. Mais la stratégie, c'est quoi le coucou? C'est un animal qui est suprêmement intelligent, suprêmement rusé. Le coucou, c'est un oiseau de taille moyenne, hein, qui dépose ses œufs, enfin bref, qui externalise en quelque sorte, hein, qui dépose ses œufs dans le lit d'une autre, d'une autre espèce d'oiseau, plutôt les passereaux, donc c'est une famille qui est très très large, plus petit, et qui délègue le soin à l'espèce hôte, hein, de couver. Puis d'éduquer. Donc c'est une configuration parfaite d'externalisation des soins de l'éducation, de l'élevage. Hein. Et une fois que l'oiseau coucou a éclos, c'est un prédateur, hein. C'est pas seulement parasitisme de couvée, mais aussi prédation. Il chasse les œufs légitimes du nid et il est nourri par des parents qui l'abusent, hein, parce que les parents nourrissent un oiseau qui grossit à vue d'œil. Ce qui est fascinant dans les documentaires, il y en a plein sur Internet, hein, c'est qu'imaginez, j'en sais rien, un rouge-gorge, c'est pas très gros un rouge-gorge, des parents rouge-gorge qui nourrissent un coucou qui au bout de 2 à 3 mois est 5 à 10 fois plus gros qu'eux et continue à le nourrir.
Alors je précise bien pour les gens qui nous écoutent, qu'on parle bien des racistes anti-blancs et pas de l'immigration comme phénomène général.
Alors d'abord, il faut le voir comme une parabole. Hein. La parabole est un art européen qu'un de nos plus grands fabulistes a magnifiquement illustré. Alors je m'en inspire à mon petit niveau, hein, bien sûr, à La Fontaine. Hein. C'est une parabole cruelle, glaçante, glaciale. Me semble-t-il, qui s'applique à la perfection des personnes dont j'ai pu recueillir le témoignage. J'ai le sentiment qu'ils étaient une variable d'ajustement dans un univers scolaire qui les a sacrifiés d'emblée parce que cet univers scolaire refusait d'admettre la possibilité d'existence d'un racisme anti-blanc.
C'est de l'ignorance ou c'est de la lâcheté? Ou les deux?
L'ignorance, c'est difficile. Hein. J'essaye d'imposer également une autre chose, parce que je pense qu'on a besoin, Jean-Yves le sait, lui qui a imposé des syntagmes comme la préférence nationale, la préférence européenne, on a besoin d'imposer cette loi des 3D, délit, déni, délire. Il y a une opération de déni, c'est-à-dire on ne veut pas le voir, on pense que le réel n'a pas eu lieu. Le délit, si jamais vous pensez que le réel a eu lieu, eh bien le réel devient judiciarisable, c'est-à-dire que si vous parlez de blanc, vous pouvez finir au tribunal, mais quand même le mieux du mieux, c'est le dé de délire, le réel est substituable, vous inventez une réalité alternative, un monde parallèle, la post-vérité, dans lequel il n'y a pas de différence raciale, dans lequel la possibilité d'un racisme anti-blanc n'existe pas. Or, non seulement d'un, il existe, hein, mais deux, il est même central, hein, parce que on vit sur un schéma d'asymétrie victimaire. Il y a des victimes légitimes, hein, et des victimes qui ne le sont pas. Si on veut dans les univers multiculturels, hein, que les univers multiculturels fonctionnent, hein, et de fait, ils peuvent fonctionner, hein, je veux dire, les univers multiculturels, mais simplement, il y a une part maudite, hein, c'est les peuples historiques. Hein, les peuples historiques, il faut les sacrifier. Et ça, alors j'en ai fini, et ça, si jamais l'idéologie dominante en fait l'aveu,
C'est quasiment
tout son système de pensée s'effondre. Hein. Moi, je compare ça à un jeu de Mikado. Si vous reconnaissez qu'il y a un lien entre insécurité et immigration, bah vous interrogez sur
la pertinence
de l'immigration. Si vous interrogez sur un lien entre l'immigration et le racisme anti-blanc, bah vous retirez une baguette du jeu de Mikado qui risque de s'effondrer. Et le reconnaître est impossible dans l'absolu. C'est pour ça que moi, je dis que c'est timide. Hein. On ne peut pas rentrer à l'ARCOM, on ne peut pas rentrer dans l'espace des médias centraux. Mmh. On va à la limite jusqu'au Figaro, mais pas au-delà. Je dis bien à la limite.
Et encore.
Hein. Ouais, et voilà. Oh, et je dis à la limite. Hein. Mais vous rentrez en aucun cas dans les médias de service public. Hein, parce que, et j'en ai fini, parce que reconnaître l'existence du racisme anti-blanc, c'est reconnaître l'échec. Hein, des politiques d'intégration, d'assimilation. Oui. Ça veut dire que l'immigration, ça ne marche pas.
C'est aussi peut-être se réserver de très mauvaises journées. Imaginons, on est prof en banlieue et on décide de défendre le petit blanc qui se
fait... Franchement, il n'y en a plus. Ils partent tout seuls.
Ceux qui ont été là, en tout cas, à l'époque où il y en avait, c'est-à-dire années 90-2000.
J'ai un témoignage d'un prof à Bobigny, au Collège République à Bobigny, 80 nationalités. Prof de lettres, hein, romancier de surcroît, très bon, qui restait 15 ans là-bas. Il n'y a plus de blancs et les profs sont des blancs. Simplement, les profs, me dit-il, il y a deux types de blancs adultes en banlieue. Il y a le flic et le prof. Il n'y en a pas d'autres, en réalité. Donc, que veut être le prof? Le prof va être un anti-flic en banlieue. Donc, en effet, pas seulement pour acheter la paix sociale dans sa classe, hein, parce que c'est confortable moralement. Dans le 93, c'est là où il faut lire les programmes de Sud-Éducation. C'est délirant. Je veux dire, c'est eux qui portaient les réunions de non-mixité, Sud-Éducation, dans l'école. Hein. C'est que des blancs. Hein, je veux dire, c'est que des profs blancs. Ils sont masochistes, oui. Je pense qu'aussi, il y a un calcul coût-bénéfice. Hein, je veux dire, ils sont éduqués par le CNRS, ils sont au seuil. Hein. Ils ont pas que des gratifications symboliques, hein. Ils ont aussi des gratifications économiques, hein, puisqu'ils vivent de leur trahison, du choix préférentiel pour les extra-européens contre les leurs.
Hein. Enfin, tant que ça dure, hein, parce que je ne sais pas si vous avez été choqué en tant qu'auteur de ce livre, donc Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir à la Nouvelle Librairie, par les scènes ahurissantes qu'on a vues à la fin des municipales dans les mairies gagnées par LFI. Je ne sais pas si vous avez vu ces scènes, est-ce que vous en avez pensé, mais est-ce que ça rejoint justement un peu...
Alors simplement, à la fin des fins, ça se retournera contre l'état-major blanc de LFI. Rima Hassan l'a rappelé il y a 48 heures.
Très clairement. Ah, il y a 48 heures
ça, elle l'a rappelé, elle a
insisté là, lourdement ces jours-ci.
Ça commence.
Mais c'est oui, à la fin des fins, c'est... Alors là, simplement, sur la stratégie du coucou, c'est...
LFI, c'est le coucou. Enfin, c'est la stratégie.
J'ai découvert après. Mais simplement, il y a un auteur remarquable qui arrive sur le frérisme, hein, c'est Florence Bergeau-Blaclair. Hein. Elle exploite la stratégie du coucou. J'ai eu l'occasion de la rencontrer récemment. Elle m'a dit, je l'ai fait avant vous. Oui, très volontiers, chère Florence Bergeau-Blaclair. Sauf qu'elle exploite hein, dans le cadre du frérisme. Hein. Et ça s'applique à la perfection municipale. Hein. C'est que les indigénistes ne peuvent pas prendre le pouvoir directement, ni les islamistes. En revanche, ils déposent leurs œufs au sein de la France insoumise, au sein des Verts, de l'extrême gauche. Hein. Ils laissent ces œufs prospérer et petit à petit, ils colonisent et ils vampirisent le Nice. Ça s'est passé en Seine-Saint-Denis. Et ça sera demain. Guiraud peut faire le fanfaron dans 6 ou 7 ans.
C'est fini.
Il sautera, je veux dire, il sautera Roubaix perdu. Moi, j'ai des témoins de Roubaix. Roubaix, je veux dire, c'est comme Saint-Étienne, comme Rouen, comme malheureusement, comme 100 autres villes françaises hein, qui ont été grand remplacés.
Ah bah c'est 75% de population étrangère.
Qui tue les parents qui l'ont nourri.
Oui, à la fin, il tue. Alors, simplement, t'as fait du coucou. On pourrait penser que le rouge-gorge est stupide. Hein. Non, il n'est pas stupide parce que si jamais il refuse de collaborer avec le coucou, eh bien le coucou débarque, détruit le nuit, détruit le.
Ah bon
le c'est la stratégie dite mafieuse du coucou. Et c'est une stratégie qui va très très loin. Elle est dite mafieuse par les biologistes. Hein, parce qu'il arrive même, comme dans la stratégie mafieuse, qui est protection contre extorsion. Il arrive que l'oiseau coucou dégage des substances qui repoussent les prédateurs. Et qui protège les parents qui sont abusés. Mais quoi qu'il arrive, c'est là où la coucou est un animal qui est très très fort, hein, c'est que si jamais vous refusez de collaborer avec lui, il vous extermine. C'est ce que je dis, alors c'est brutal, hein, il n'y a pas de coexistence possible avec le coucou. Donc ça va vraiment loin. Mais à la fin des fins, ils détruisent, dans le meilleur des cas, ils détruisent les enfants, et dans le pire des cas, enfants et parents.
Xavier Van Lierde.
Oui, je voulais demander à François Bousquet s'il voyait une articulation, moi je la vois un petit peu, entre d'une part le racisme anti-blanc et un certain mépris, mépris de classe qui s'est historiquement quand même exercé à l'égard des classes populaires blanches et qui aurait en quelque sorte préparé ce racisme anti-blanc. Parce que j'ai un peu le sentiment qu'au-delà du racisme anti-blanc horizontal que vous décrivez très bien dans votre livre, il y a aussi un racisme anti-blanc institutionnel dont on pourra faire la généalogie depuis, je sais pas, des BD comme Les Bidochons, des films comme Dupont-Lajoie, et la façon dont, en gros, on a légitimé par avance la détestation de l'autochtone et particulièrement du blanc de classe populaire. Est-ce qu'il y a une parenté, une articulation, une généalogie commune entre ces phénomènes, selon vous ?
Oui, tout à fait. Hein. On peut ajouter à 175 Dupont-Lajoie. Pour rappel, hein, c'est un limonadier blanc qui viole une jeune fille blonde, hein, accidentellement qui la tue et qui dépose son cadavre auprès d'une communauté musulmane, hein, pour faire accuser les musulmans. Et c'est un déchaînement, alors c'est Yves Boisset qui n'a pas fait que des mauvais films malheureusement, mais on peut ajouter Le Beauf de Camus. C'est les mêmes années, hein, c'est exactement les mêmes années. Si on regarde, moi je m'appuie toujours sur le bouquin de Paul Yonnet, si on regarde le travail de Paul Yonnet sur le voyage au centre du malaise français, les années 70 sont déterminantes dans la culture savante et populaire. Hein. 72, c'est la France de Vichy de Robert Paxton, hein, qui renverse le mythe résistentialiste, hein, la légende dorée de la résistance, hein, qui était fausse, pour inventer une légende noire, mais qui est tout aussi fausse. Hein. Et c'est un travail de détricotage du récit national. À la fin des fins, il s'effondre sur lui-même. Hein, et ça aboutit à la reconnaissance de la culpabilité de l'État français dans la Shoah par Jacques Chirac. Hein. Alors simplement, je reviens sur la question des catégories populaires. Oui, il y a un racisme de classe. Hein, ça ne fait pas un pli. Est-ce qu'on peut le poursuivre jusqu'aux déchiens ? Genre les déchiens, c'est infâme. Il y a des gens qui aiment ça, les déchiens. J'ai jamais compris pourquoi. Pas forcément des snobs, hein. Même dans nos entourages. Hein. Donc oui, c'est une culture du mépris. Moi, j'aimerais imposer également un distinguo entre ce que j'appelle le grand blanc et le petit blanc. Le petit blanc est l'objet de mépris et de condescendance des sciences sociales, de mépris et condescendance du grand blanc. C'est qui le grand blanc ? Le grand blanc, c'est l'électeur de Mélenchon, d'Anne Hidalgo, c'est l'homme des métropoles.
Hein. L'esprit canal.
C'est l'esprit canal, c'est l'esprit libé, c'est les bobos, c'est qui vivent en permanence dans le mensonge social. Hein. Il faut les démasquer. Je veux dire, comme ils vivent dans le mensonge, ils sont condamnés à être sectaires. Hein. Leur cerveau est c'est une dissonance cognitive, parce que je les connais, puisque je vis avec eux, je travaille avec eux depuis 30 ans. Ils passent leur vie à tricher, avec la carte scolaire, avec la stratégie résidentielle, hein. Mais ce sont des grands blancs, donc ils font la leçon aux petits blancs en leur disant que ce sont des électeurs beaufs, bourrins, ringards et provinciaux qui votent Marine Le Pen ou Jordan Bardella. D'ailleurs, la sociologie des prénoms, Jordan Bardella atteste de la bêtise de ce petit blanc. Donc oui, il y a un racisme de classe, hein, de la part du grand blanc. Il y a un racisme tout court de la part des extra-européens sur cette cible, hein, qui est toute désignée pour être sacrifiée.
Les gilets jaunes, quoi.
Oui, les gilets jaunes. En gros. Johnny, ces gens-là rentrent. Ma thèse, c'est qu'ils rentrent toujours par effraction dans l'actualité. Par TPMP, Cyril Hanouna. Le cœur de mission de l'ARCOM, c'était de maintenir TPMP, C8 et Hanouna. C'était la seule mission qui s'adressait à un public populaire, hein, dans le cadre de la parité et de la représentativité des populations françaises par CSP, aurait dû être maintenu. L'enterrement de Johnny. Tout d'un coup, les gens découvrent que Johnny n'est pas que... Il y a 1 million de gens pour Johnny. C'est sidérant. À la Madeleine, hein, moi j'ai fait un reportage sur Johnny pour sa mort, c'était sidérant. Je veux dire, tout d'un coup, il y a une France invisible qui débarque, hein. Pourquoi elle est invisible ? C'est moi le paradoxe, mais j'ai pas travaillé dessus. Et sachez, Xavier, que personne n'a travaillé dessus. C'est fou, hein ? Que le plus grand exode français, peut-être plus grand que l'exode de 40, hein, c'est le départ des catégories populaires de tous les centres-villes, hein, et de toutes les petites couronnes des grandes villes. Hein, en 80, 90, 2000, hein, on parle au bas mot de 10 millions de gens. C'est vertigineux, je veux dire. C'est un coût économique.
C'est cette France qu'on appelle périphérique aujourd'hui.
La France qui est devenue pavillonnaire. Les pavillons, c'est 15 millions de pavillons en France. C'est plus le rural. Donc je vous laisse imaginer. Les ordres de grandeur sont colossaux. Il n'y a pas de travail universitaire sur le coût économique, hein, des migrations internes des Français. Je veux dire, qui se sont faites, hein, que parce qu'il y avait des frictions avec l'immigration extra-européenne. Hein, parce qu'eux étaient dans les mêmes immeubles, hein, les mêmes bars, les mêmes escaliers. Donc eux, bon, c'est les témoins que j'ai rencontrés dans mon tome 2, eux, dès les années 80, me disent-ils, hein, je pense à un témoin qui était dans la dalle, sur la dalle du parc Olièvre à Évry, où il était le seul blanc, me disait-il, corrigeant, je suis le seul blanc qui a refusé de m'assimiler à l'envers. Hein. Années 80, il y a du sang qui passait dans les caves parce qu'on égorgeait les moutons. Je veux dire, années 80. Et ça, nous, on le voit 30 ans ou 40 ans après. Donc, eux l'ont vu et se sont barrés. Ils ont voté avec leurs pieds, ils ont pratiqué le séparatisme. Que pratique le Grand Blanc ?
Le Grand Blanc, c'est le fameux vote TGV.
Le vote TGV, c'est le premier qui voit, c'est Fourquier. Fourquier le voit avec, c'est le premier qui voit le vote TGV. C'est le vote Paris, Blois, Orléans, enfin vous connaissez Tours.
C'est moi.
Tours. Tout d'un coup, il se rend compte, Fourquier, en 80, qu'il y a Jean-Marie Le Pen fait, je sais pas, 15-17% dans la petite couronne parisienne, peut-être voire 20. Puis 90, ça s'effondre. Et en revanche, il y a des pics sur la ligne TGV, ou à Lille, parce qu'ils se sont barrés, je veux dire. Mais comme font les Blancs. Comme le Grand Blanc se barre. Hein. Le Grand Blanc, il se barre dans la gentrification. Mais c'est une manière hypocrite hein, de fuir la mixité, que par ailleurs, il promeut. Et j'en ai fini. La triche, elle vient de pour moi, d'un hiatus. Hein, c'est posture-imposture. Hein. Il y a un maximalisme des déclarations et des discours. Hein. Ouais, on est pour l'intégration. Ouais, on est pour la mixité. Et il y a un laxisme des pratiques. Hein. Voilà.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, simplement, moi je voudrais dire que par rapport à Fourquet ou à Guilly, moi je l'ai vécu de manière extrêmement concrète dans les années 80-90, en m'occupant du Front National en Ile-de-France, puisque je voyais les électeurs partir. Et quand je voyais quelqu'un de sympathique sur un marché avec des enfants, je lui posais la question, est-ce que vous allez rester ? Évidemment, la personne me répondait, bah, non, dès qu'on peut, on part. Et je savais en même temps que je perdais un électeur qui allait ailleurs, voilà. Ça a été une migration formidable.
Interne,
ce qui est incroyable, c'est que le Front National présentait jusqu'en 1995 des listes dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis avec des scores importants et qu'aujourd'hui, il y a eu, je crois, trois listes avec des scores inférieurs à 10%, voire 5%. Mais ce n'est pas de la faute d'ailleurs des gens qui ont
Paris
fait
Paris intramuros.
Et même Paris intramuros.
Au fond, quand on y pense, c'est désespérant.
À Jean-Yves de confirmer. Mais dans le nord de Paris, ouais, on tangentait les 20%, je crois, hein, les années 80.
Des gens comme Roland Gaucher allaient dans le nord de Paris.
Il fait 19e, 20e.
Et après, il n'y a plus rien. Je veux dire, après, c'est.
Les électeurs partent. Voilà.
Bah oui. Et encore une fois, Paris, quand on regarde, encore une fois, c'est triste, parce qu'on aime Paris, mais quand on voit. Sarah Knafo a fait une campagne excellente, soutenue de manière massive, à la fois par les médias de droite, mais aussi par certains médias plus centristes qui avaient envie de créer objectivement une forme d'alternative à Bardella, c'est-à-dire de diviser, d'avoir deux candidats valables. Et donc, elle avait eu tous les feux au vert. Elle-même est brillante, elle a fait une belle campagne. Et bien, malgré tout, 10%. Ouais. Ça veut dire qu'avec la plus belle campagne qu'on puisse mener à Paris...
Vous plafonnez.
Ouais. On est à 10%.
Ouais. C'est la même chose. Et c'est la même chose à Bordeaux, à Lille, à Nantes.
Alexis Poulain.
Oui, des nouvelles des grands blancs qui organisent en fait cette chienlit. Emmanuel Macron qui vient de fustiger les maboules favorables à une rupture avec l'Algérie en expliquant que les médecins algériens sont essentiels pour remédier aux déserts médicaux français qui ont été créés par nos énarques. Et donc maintenant on nous explique qu'on va devoir exactement ce qu'a fait d'ailleurs le NHS en Grande-Bretagne. Hein, la plupart des médecins du NHS sont issus du Commonwealth. Eh bien nous, la France, voilà l'excuse qui est prise par Emmanuel Macron pour en plus insulter évidemment les Français avec les maboules, comme d'habitude.
Maboule, c'est sa citation.
Sa citation, absolument. Ah oui, c'est bien. Oui. Bon, écoutez, on a l'habitude d'être insulté par le président de la République. On n'est pas à ça près. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le côté idéologique et systémique de la part de ces responsables-là, les globalistes en l'occurrence, de pousser à cette déconstruction du peuple, parce qu'ils ont peur du peuple, tout simplement. Un peuple français qui serait politique, qui serait homogène, qui aurait conscience de son pouvoir, ça donnerait la Hongrie. On voit le danger que c'était déjà pour Ursula von der Leyen, ça pourrait donner la Pologne, ça pourrait donner beaucoup de choses. Et la France, alors clairement, c'est un pays totalement déconstruit, là, en l'occurrence.
Oui, malheureusement. En effet, ils ont peur du peuple. Hein. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Hein. Quitte à faire des métaphores historiques, elle a été faite. Hein. C'est les violences les plus lourdes qui ont été commises contre la population française depuis l'indépendance algérienne. Hein. Me disaient des camarades pieds noirs. On n'avait jamais vu avec plus de morts dans le cadre algérien, certes. Mais on n'avait rien vu de tel. Hein. Macron, il ne fait qu'applaudir le... Alors, je ne sais plus quel était le souverainiste... Hein. Qui avait confessé Georges Pompidou en 73, avant sa mort. Hein. Et Pompidou disait que c'est le premier, hein, si on doit faire remonter quand même un point de départ, qu'il avait ouvert les vannes de l'immigration pour complaire au grand patronat, à Bouygues et à d'autres. Hein. Ouais. Il le dit, c'est documenté.
C'est pour contrecarrer les accords de Grenelle.
Voilà, ouais, c'est des arbitrages économiques. Hein. Moi, je vis dans la France périphérique, hein, où il n'y a pas de médecin. Mmh. Moi, mon médecin est à Paris, je triche. Hein. Mais de fait, quand vous allez aux urgences, hein, c'est que des médecins, ça me va, je veux dire, roumain, ça me va, mais extra-européen, et il y a un calcul économique, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher aux urgences. Mmh. Hein.
Bien sûr. Et c'est vrai que dans les années 70, on l'oublie, mais le Parti communiste français était anti-immigrationniste.
Ah, absolument.
Les bulldozers.
On pourrait ressortir les vidéos.
Les foyers Sanacotra, il avait tout compris, Georges Marchais, il avait tout compris.
Oui, et puis même les communistes.
Mais même Robert Rue.
Ouais, Robert Rue à l'époque, oui, c'est 80-81. Ouais. Et puis on peut remonter plus haut, hein, le PCF, c'était sa marque de fabrique, c'était Produisons Français. Bon, alors évidemment, il avait beaucoup à se faire pardonner. Hein. Maurice Thorez avait beaucoup à se faire pardonner. Mais,
ouais. Xavier Van Lierde.
Oui, je ne veux pas du tout nier les petits calculs, les bidouillages économiques et autres, qui, à mon avis d'ailleurs, se traduisent plutôt aujourd'hui dans un modèle stato-consumériste par l'importation non pas de travailleurs immigrés, mais de consommateurs immigrés. Mais ce n'est pas le sens de la question que je voulais poser. Je me demande si, au-delà de ça, au-delà des calculs électoraux, au-delà des intérêts économiques des uns et des autres, est-ce qu'il n'y a pas, ce qui se manifeste dans la société, une volonté de destruction, une véritable haine et une sorte de pulsion de mort qui s'empare de notre société, en tout cas des élites, à l'égard du peuple français. Je me posais cette question en observant les déclarations complètement sidérantes de cette vieille baderne gauchiste d'Éric Orsenna il y a quelques jours, expliquant que une sorte de France ou d'Europe, de vieille Europe desséchée, devait s'en remettre à la grande irrigation de l'immigration africaine pour s'en sortir. Mais on retrouve le même type quand même de discours extrêmement haineux dans la bouche aussi bien entendu de Jean-Luc Mélenchon, qui se paye le luxe d'insulter directement les Français, mais de se réjouir par avance en fond entre Orsenna, le mitterrandien, le grand bourgeois mitterrandien académicien, et le battleur Mélenchon. Il y a une même pulsion, une même jouissance à envisager la destruction du peuple natif. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi, François Bousquet ?
Oui, malheureusement, on touche à un mal profond. Comment l'appeler, vous évoquiez la pulsion de mort, Guillaume Fay, l'ethnomasochisme. Théodore Lessing, la haine de soi, il l'avait étudié dans la configuration des sociétés, enfin des juifs, hein, à la croisée des 19e et du 20e siècle, un livre génial, hein, sur Otto Weininger, Paul Rey, etc., qui étaient des juifs antisémites. Hein. C'est le premier à avoir vraiment travaillé sur la haine de soi. C'est des pathologies tellement lourdes, hein, qui affecte nos élites, hein, mais également des cercles quand même assez larges, hein, et assez éloignés des élites, hein, puisqu'à la fin des fins, on finit par voter pour Macron, qui nous traite de maboule, mais quand même, Macron a deux fois une majorité. Donc ça veut dire qu'il y a des signes d'usure, hein, au sein du peuple. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, ce peuple. Hein. Mais l'observant dans la France périphérique, je vois qu'il est quand même très large, qu'il est en train de s'effondrer. À mon sens, anthropologiquement, physiologiquement aussi, si on s'en tient aux épidémies d'obésité, moi qui m'alarme, hein, c'est lourd, sur un fond de très grande vulnérabilité morale, hein, c'est qui concerne pas que les Français, hein, c'est qui concerne tous les Européens de l'Ouest. Hein. Les Européens de l'Ouest souffrent d'une immense vulnérabilité morale, hein, il y a un bouquin aux États-Unis qui s'appelle L'empathie suicidaire, hein, qui est un gros succès, qui a été défendu par Musk, que je n'ai pas encore regardé, hein, mais je vais regarder. On souffre d'empathie suicidaire, je trouve. On a dévoyé toutes les vertus, en particulier les vertus théologales. La charité, aujourd'hui, se retourne contre nous. Ça devient des vertus négatives. Hein. La charité postulait que, et l'hospitalité, qu'on réponde à que l'étranger, quoi, coche deux cases. Hein, c'est que. Bah, il reste pas longtemps chez nous, raison pour laquelle les lois de l'hospitalité, c'était sacré. Hein. Et le deuxième point, c'est qu'il respecte les lois de la cité qui l'accueille. Hein. On répond pas à ces deux cases, hein. On s'entête. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est dépossédé jusque dans le vocabulaire, hein, puisqu'on peut pas parler de blanc, ça nous a interdit de parler de blanc. C'est-à-dire qu'on a été grand remplacé jusque dans le lexique. Hein. C'est dire à quel point le mal est profond, que le réveil sera brutal. Hein. Mais que répondre à cette question ? C'est la question sur l'usure. Hein. C'est la question de la fatigue d'être soi. Pourquoi une société s'effondre ? Je ne sais plus, l'historien britannique qui disait qu'un peuple ne meurt pas par assassinat, mais par suicide. Hein. Il se trouve que nous, on meurt par les deux. On est à la fois, on se suicide, hein, et on est à la fois assassiné. Se remettra-t-on ? Après, j'en ai fini. Se remettra-t-on ? Mais c'est, moi, ce sont des interrogations, là, pour le coup. Pas des réponses. Se remettra-t-on de la culpabilité qui pèse sur l'âme européenne après la Deuxième Guerre mondiale, hein ? C'est la question qui hante l'œuvre de Renaud Camus, qui me hante, hein, qui nous a désarmés.
Là, je pense sincèrement que, pour le coup, ça commence. Si je peux avoir un petit message d'espoir, ouais, dans cette émission.
Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, je voudrais un message de soir, parce que je vis également dans la France périphérique, et je fais pas, heureusement, le même constat que François, mais qui, lui, est dans la Nièvre, c'est-à-dire dans la diagonale du vide. Moi, je fais le constat plutôt d'une façon dont... Enfin, je vois beaucoup de signes de révolte, mais surtout de regain de fierté parmi les Français blancs des provinces. Voilà, et qui se manifestent tantôt par le succès de manifestations comme du canon français, mais aussi par un vote beaucoup plus assumé pour la droite nationale, qui est revendiquée désormais, qui n'est plus secret, par la volonté de constituer des zones homogènes. On peut appeler ça la France des lotissements, considérer que c'est moche, mais en réalité, les gens qui investissent ce type de zones immobilières, en quelque sorte, savent très bien pourquoi ils y vont et la façon dont ils veulent la préserver. Et le disent également. Donc je suis pas aussi pessimiste, même si j'ai un peu peur que les courbes démographiques soient plus rapides que ce retour, mais
que le sursaut,
ce regain de fierté est là, très perceptible. Voilà.
Charles-Henri.
Oui, j'ai cet état de fait, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et là je suis totalement d'accord, c'est un vrai suicide, mais qui date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une petite coterie, de gauche, les grands blancs gauche qu'on dit bobos aujourd'hui, ont toujours vomi contre ce qui était français, voire franchouillard, hein, on se souvient des certains Bernard écrivains Henri ou artistes disaient tout ce qui est national, nous vomit tout ce qui est, tout ce qui, c'était quoi la formule
Franchouillard, Béret, Bignou, enfin je...
Oui, nous vomissons tout ce qui est franchouillard. Ce que
c'est Globe, c'est le manifeste c'est de Globe.
Voilà. Ça, c'est Benamou, je crois, c'était
Béret, Bignou, voilà, tout ce qui est franchouillard.
Alors, non seulement ça, mais il y a eu une culpabilisation. Moi, je me souviens, dans les livres, j'ai fait ma scolarité dans les années 70, et ça commençait à nous culpabiliser sur la colonisation, sur le fait que nous avions pillé l'Afrique. Bon, alors, quand vous enseignez ça à votre propre peuple, et culpabilise, et en plus quand vous accueillez chez vous les anciens colonisés, ils finissent par vous détester en disant on a peut-être droit à la revanche. Donc il y a déjà ça, et je voudrais finir aussi par le fait que dans les artistes, les rares artistes qui ont voulu défendre un petit peu le petit peuple blanc, comme l'on dit avec un peu de mépris, il y a eu Daniel Guichard,
qui a été le seul
artiste dans les années 80, c'était très courageux à l'époque, de dire qu'il était prêt à voter pour, à l'époque, Jean-Marie Le Pen. Fallait le faire. Hein. C'était à Ciel Montmardi, une émission ça avec Feu.
Il l'a redit, c'est pas rétracté.
Voilà.
Alors qu'Alain Delon, c'était un jour sur deux.
Oui, on n'a jamais su un Delon.
C'est déjà ça.
Et puis aujourd'hui, on tombe à bras raccourcis, on aime ou on n'aime pas, mais se bat Patrick Sébastien parce que il fait du populo, etc. Et alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un genre que personnellement moi j'aime beaucoup parce qu'il en faut. Il faut de l'élégance et puis il faut du populo un peu. Voilà. Mais lui, il dit d'ailleurs que il a le même langage que nous, un peu édulcoré, parce qu'il peut pas, sinon il passerait plus jamais à la télévision.
Pas sur Delphine Ernotte, hein. Pas la chanson. Sur ses noix.
C'est la rimerie.
Si tu avais connu Marcotte, tu aurais les larmes aux yeux. C'est là où je voulais en venir, c'est que lui, on lui tolère même pas le fait de faire des chansons gauloises, gaillardes, qui sont un peu de tradition française. Mais allez écouter les paroles des rappeurs qui sont 100 fois beaucoup plus violentes et dégueulasses. Mais ça passe crème.
Si je peux dire un mot, je reviens à ce que pointait Xavier. Il est évident que notre peuple, hein, français, européen, encore pourvu d'un instinct de survie. Mais enfin, on ne peut pas non plus négliger les tendances lourdes, hein, le phénomène des cycles, hein, les phénomènes de dégénérescence. Hein. On évoquait Patrick Sébastien. Moi, j'aime beaucoup Patrick Sébastien parce que c'est du rire gras. On vit dans une époque de rire maigre. Hein. Ouais. Mais le rire gras était quand même néanmoins... ou Cyril Hanouna. Alors, c'est confiné aux périodes de, carnaval. Enfin. On avait testé, hein, Valeurs Actuelles avait testé et Cyril Hanouna et Patrick Sébastien pour la présidentielle. Hein. Moi, j'avais appelé ça la clownocratie. C'est qu'on rentre, on rentre dans des formes de clownocrature. Hein. Et en théorie politique, ça s'appelle la dégénérescence des formes de démocratie. C'est le basculement de la démocratie vers la démagogie. Le terme savant, c'est oclocratie. C'est d'ailleurs le cratie, kratos, le pouvoir, oclos, le peuple. Hein. La foule. Hein. Donc, évidemment que j'aime Patrick Sébastien. Je l'aime d'autant plus qu'il fait la nique au système. Hein. Simplement.
Et même à Delphine.
Et à Delphine.
Hein. Surtout, qui représente
le système. Et à Delphine. Ouais. Hein. Mais de fait, convenez, Xavier, que passer de Charles de Gaulle à Patrick Sébastien, c'est waouh, c'est. c'est passé un truc quand même.
Alors, Alexis Poulain.
Je pense que cette oclocratie, elle remonte à loin. C'est la candidature de Coluche, déjà, en 81. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a des clowns blancs, plutôt tristes, mais qui sont des clowns. Enfin, je suis désolé, Gabriel Attal n'a rien d'un personnage qui pourrait être aux commandes de l'État. Emmanuel Macron, pareil, c'était un leurre. Enfin, c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord.
Donc, ce sont des clowns, ce sont des mauvais acteurs qui parlent que leur nombril. Enfin, on est de toute façon dans ce moment-là. Et eux, par principe, en veulent au populisme parce que c'est une force, une vraie force en l'occurrence, contraire à la leur, et assoient leur pouvoir sur soi-disant des élites scientifiques, intellectuelles, économiques, etc. Ouais. Mais tout ça est ridicule.
On est d'accord, Alexis. Hein. Pour moi, ça fait l'oclocratie ne vise pas que Patrick Sébastien. Hein.
Oui.
C'est l'ensemble.
Non, c'est important de le préciser.
Non, vous avez raison. Simplement, ça remet en perspective les personnes qui nous gouvernent, mais aussi les personnes qui aspirent à les remplacer. C'était ma seule réserve par rapport aux remarques de Xavier sur le peuple. Je l'aime beaucoup, je veux dire, simplement pour vous montrer les processus d'hybridation. Dans mon village, en 2018, quand la France gagne la Coupe du Monde, tout le village est pavoisé aux couleurs tricolores. Alors que l'équipe est déjà black. Hein. C'est qu'on est vraiment dans des processus presque schizophrènes. C'est qu'il y a un sentiment patriotique qui est très fort, hein, mais c'est plus tout à fait la même patrie. Voilà.
Alors, on va devoir se quitter sous peu. Ah, j'arrive en deux secondes.
Juste une anecdote sur le 98, la France tricolore.
Moi, c'est 2018.
Hein. Ah, 2018.
Mais allez-y.
Ah, ouais, sur le 98. J'étais à une réunion où il y avait vraiment l'état-major du Front National de l'époque avec Jean-Marie Le Pen. Tout le monde a assisté au match final. Sauf deux. Martial Bild et moi. Voilà.
petite note drôle dans votre livre. J'aime bien, il y a un moment où vous dites que vous connaissez un acteur arabe qui dit « Oh ben maintenant, on nous met que des rôles de gentils, qu'est-ce qu'on s'emmerde ?»
Ouais. Même chose pour les femmes. Hein. Il n'y a plus de rôle de vamp, hein, de femme cannibale, hein, prédatrice, les qui vous vampirisent les hommes. C'est ça. Il n'y a plus que le mâle blanc qui est porteur de négativité. Même dans les séries.
On est des prédateurs, vous savez bien.
Et il y a la répression pénale en plus.
Par rapport aux
jeunes blancs ou aux jeunes femmes qui essayent de réagir, il y a derrière une réaction pénale et policière qui est totalement disproportionnée entre le fait générateur de la répression et la répression.
Une certaine droite ne veut pas comprendre, il n'y a que des prédateurs ou des pervers narcissiques chez les blancs. Et ils ne sont pas défendus.
Les autres sont des séducteurs. Je voudrais qu'on revienne quand même à votre livre pour terminer. Moi, honnêtement, c'est vraiment dur. Il y a des témoignages effrayants. C'est vraiment... il y en a deux, trois que j'aimerais quand même faire connaître aux auditeurs, même s'il faut lire ce livre, parce que ça apprend des choses. Mais il y a des choses qui sont vraiment dures. Là, vous parlez des salles de classe restées ouvertes sur les temps de midi sont investies par des élèves arabo musulmans. Ils y séquestrent des élèves féminines et les forcent à des relations sexuelles non consenties, fellation. Bien que mis à pied pour le reste de l'année, il n'y a aucune poursuite judiciaire. Les victimes, elles, ont été conduites à changer d'établissement. C'est quand même hallucinant. Le proviseur s'en prendra systématiquement aux élèves autochtones. Les persécutions iront des reproches sur la tenue vestimentaire, au laïus en salle de classe, en passant par les insultes, notamment envers les adolescentes blanches, impliquées dans des altercations, parce qu'elles étaient nos amies, nos camarades de classe ou nos amoureuses, et qu'ils qualifiaient de petites putains. Il y a ce témoignage effroyable d'une jeune fille qui s'appelle Sonia, qui rythme un peu votre ouvrage, qui est un personnage important. est donc vraie. Enfin, c'est une.
Oui, puis elle paraît sous son nom. Est-ce qu'elle l'assume, ouais.
et qui dit, là, donc, notamment, de fil en aiguille, je suis poussé dans l'herbe, il soulève mon t-shirt, retire mon soutien-gorge et se masturbe entre mes seins. Et les deux,
elle a 15 ans.
Avec l'herbe, en me disant, tu vois, on est gentil. Cette phrase, je n'oublierai jamais. Puis ils s'en vont, comme si de rien n'était, me laissant là. Et ensuite, bon, bah, ça n'arrête pas. Enfin, il y en a des centaines de témoignages comme ça. Mais alors, comment est-ce que vous récoltez déjà ces témoignages? Comment expliquez-vous aussi qu'ils vous les livrent avec autant? Enfin, c'est dur quand même d'admettre qu'on a subi des trucs pareils.
Alors, pour les femmes en particulier, ce que je...
Ah, mais même pour les hommes, enfin...
Alors, pour les hommes, je distingue les logiques d'honneur qui nous commandent, hein, ouais. Qui nous font nous réveiller la nuit en sursaut et en sueur, parce qu'on n'a pas été glorieux, ouais. Parce qu'on a un comportement de fuite, hein, au lieu d'affrontement. Pour les femmes, c'est des logiques de souillure, donc plus lourdes, hein. Oh, c'est bah comment ils viennent parce qu'il y a quelqu'un qui leur tend enfin le micro, quoi. Il y a quelqu'un qui veut les écouter. Genre ils se sont heurtés toute leur scolarité en tout cas à un front du refus, encadrant, enseignant, policier, hein, aussi policier. Hein, genre c'est pas seulement les magistrats, c'est aussi les policiers qui ne veulent pas entendre la parole de ces victimes, hein, alors que ce sont nos frères et nos sœurs. Hein, moi j'en parle pas sans émotion. Je pense que ces témoignages là, enfin j'ai 100 témoins, hein, je veux dire. Mais je pense qu'on parle de milliers de personnes. On parle de dizaines de milliers de personnes. Hein. Quand je travaillais sur les viols en Angleterre avec Bastien Rondeau, Prima, il y a 10 ans de cela, on n'en revenait pas des dizaines de milliers de...
On avait du mal à le croire.
On avait du mal à le croire. Ouais. Moi, je n'osais pas dire dans le chapeau, ouais. Que du papier qu'on fait paraître dans l'élément de l'enquête, hein, que j'ose pas dire 100 000, hein, parce que j'ai peur de dire une connerie, alors qu'en fait, non.
J'ai eu la même prévention. Oui.
Quand on accumule...
Oui, parce qu'on n'y croyait pas.
Eh ben, je pense que c'est le nombre de jeunes filles violées. Moi, les témoins me disent la chose suivante. J'ai un témoin, c'est banlieue parisienne. Hein, c'est les garçons là, qui me disent le nombre de filles qui ont été tournées. Enfin, je ne peux pas en parler. Je ne veux pas en parler à l'antenne. Il faut lire le livre. C'est plus facile. Ce sont des choses qui sont plus faciles à dire à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Ouais. Mais moi les témoins me disent ils ont 12 ans, hein, donc ils savent pas ce que c'est que le sexe, hein, 11-12 ans, ils savent pas ce que c'est. Bah ils revoient une jeune fille dont ils pensaient qu'elle faisait ses lacets dans le couloir. Non, elle faisait pas ses lacets, elle faisait autre chose, hein. Je parle de dans le primaire, post-regroupement familial, hein, fin 70, hein, c'est quand même sidérant, donc ça fait 50 ans, hein, de viol, hein, sur des petites blanches de 8-9 ans par des extra-européens de 12-13-14 ans qui débarquent du bled. Hein, je suis désolé, on va dire que je suis non, pas du tout. Au nom du regroupement familial, dont le français est à peine intelligible. Hein. Alors vous imaginez que bah, c'est les gens qui ont assisté à ça, bah, soit se sont assimilés à l'envers, c'est pour le plus grand nombre, malheureusement, parce que c'est une facilité, s'assimiler à l'envers, c'est la commodité. Parce que on n'est pas le courage n'est pas la norme, hein, en ces matières, mais pour ceux qui se sont bah, révoltés, bah, évidemment, c'est beaucoup sont devenus skin. Hein. Moi, je découvre le phénomène skinhead avec 30 ans de distance, que je voyais à la fête des BBR, mais un petit peu loin, parce qu'ils ont le FN essaie quand même de les écarter, quoi.
Oui,
un petit peu, mais
moins que ce sera aujourd'hui, puisque ouais. Les BBR ont disparu précisément pour éviter ça.
Non, c'est bien, mais quand même on les écarter. Quand j'avais 14-15 ans, donc je veux dire, je regardais, oh là, putain, je n'irais pas leur serrer les paluches parce que leur chien va broyer ma main. Ouais. Eh ben non, c'est des types formidables, hein, ce que j'ai rencontré en tout cas, qui ont dû passer, sauf à être perdus pour nous, donc s'assimiler à l'envers, qui ont dû passer par une révolte, qui passait par la violence, hein, pour se réapproprier bah, leur identité, quoi.
Et vous
blanche,
mieux,
française, européenne. Hein.
Vous comprenez mieux pourquoi on tombe à bras raccourcis sur des gars comme Gérard Depardieu pour faire diversion. Parce que c'est des gros dégueulasses blancs, évidemment.
Ouais, alors Gérard Depardieu, bon, c'est
encore autre chose. Mais...
C'est encore autre chose, je l'aime beaucoup. Je compare à un phoque, hein, c'est un phoque merveilleux
non,
qui pèse 150 kilos.
Vous voyez.
Et j'imagine pas un homme de 150 kilos avoir une sexualité, c'est absolument
déjà,
impossible.
Déjà, hein. Il voit plus rien de ce qu'il va...
C'est pas le sujet. Il y a un truc, par contre, que j'ai vu, qui m'a un peu écœuré, parce que j'ai regardé un peu ce qu'on disait sur votre livre, et notamment sur les réseaux sociaux. Et là, des témoignages de gens de gauche qui disent « oui, mais ». Donc, ce sont des témoignages effrayants, c'est dur, c'est violent. « Oui, mais ce n'est pas, il n'y a pas de méthode contradictoire et comment attester de la véracité du témoignage et de la fiabilité ?»
Ça, on ne peut pas,
ouais. Je me suis dit « oui, mais c'est quand même des remarques de merde, pardon de le dire comme ça, mais si c'était un livre antiraciste ou en sens où on défendrait des victimes d'un racisme venant de blancs, ou de femmes abusées, les gauchistes ont une dialectique très claire, c'est on te croit.
On ne met pas en cause la parole du témoin.
Ouais. La parole du témoin.
Et enfin, là, par contre, la parole de la victime est totalement remise en question.
Même s'il y a un débat dans la communauté des historiens. Mais oui, la gauche,
c'est quand même
normal. Simplement, elle est démentie par les faits, par l'ampleur des témoignages et par le fait qu'on commence à parler du racisme anti-blanc à la marge. Mais quand même, l'enquête de la LICRA, c'est la LICRA quand même antisémite. Au départ, c'est la LICA. La LICRA contre l'antisémitisme, après la LICRA contre le racisme. Je rappelle à nos éditeurs que selon un échantillon de 14 000 personnes, 39% des Français perçus comme blancs, c'est les catégories qu'ils emploient, dit avoir été victime de racisme.
Donc c'est une étude extrêmement importante.
Sautarel disait, on fait une règle de 3 et on est quand même au minimum, au bas mot, à 20 millions de Français. Je pense que le chiffre est sous-estimé. Parce que non seulement...
Et tous les Français ne sont pas forcément exposés au contact avec les autres.
Et puis dans cette population, il y a énormément de gens qui ont intériorisé ce racisme, les gens qui nient l'existence du racisme anti-blanc, enfin bref, les métropole. Hein. Si vous demandez à une femme blanche de gauche si elle a été agressée, si elle a été victime de racisme, elle vous dira non. Pourtant, elle s'est fait traiter de sale machin blanche.
Mais elle ne le dira pas parce qu'elle ne veut pas encourager, elle ne veut pas faire le jeu du Front National, blablabla. Bla, bla, bla. Non mais c'est vrai. Malheureusement, on a déjà dépassé très largement, mais c'était passionnant. Vous finissez votre livre en disant « Nous sommes les ayants droit historiques de cette terre, notre créance est légitime, inscrite au registre des nations, et il est temps de la recouvrer. » Alors, est-ce que vous appelez une forme de révolte des autochtones?
Sinon, on ne se battrait pas. Même si la situation est désespérée, un témoin me dit il n'est pas minuit moins 5, il est minuit et quart. Hein.
C'est ce que je pense aussi.
Reconquête, il est reconquête. Mais oui, mais néanmoins, il est reconquête des Zémouriens. Donc il tracte, donc il se bat. Nous ne serions pas autour de ce plateau si nous ne pensions pas, quand même, à la fin des fins, par un heureux hasard, une heureuse providence, par notre acharnement, par notre exemplarité. Nous ne poussions pas renverser le cours des choses, même si les choses sont mal engagées. Dominique Vénère disait, et c'est dangereux cette formule, j'en conviens, c'est que l'histoire est faite d'imprévus heureux ou malheureux, faisant en sorte, notre travail, par ce que fait Radio Coucou.
C'était pas fait exprès.
Non, c'est involontaire.
C'est dommage parce que on aurait pu dévoiler beaucoup de radio.
Non. Ouais, mais ce que nous faisons à Élément, à l'Institut Iliade, dans d'autres structures, c'est que peut-être que ce cours inexorable de la démographie,
le désespoir politique est une sottise.
Pour continuer à citer Dominique Vénère, il pensait que tant qu'il resterait des Européens de sang et d'esprit, grande aventure européenne pourrait partir, même si nous devenions minoritaires, ce qui est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui.
Non, c'est sûr. Écoutez, sur ces propos pleins d'espérance, mais néanmoins, en tout cas, empreint de combativité, merci beaucoup François Bousquet d'être venu. Vous publiez donc « Sale blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir » aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et sincèrement, j'encourage tous les auditeurs de Radio Courtoisie à se le procurer parce que c'est édifiant. Merci beaucoup François Bousquet.
Merci.
Et à tout de suite pour la suite de notre rendez-vous.